Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode.
Bonjour à toutes et à tous. Non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast d'Arnaud Chevalier qui, comme il le présente, met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur et permet de partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Je m'appelle Christine Valin, je fais une recherche en sociologie sur les directeurs et directrices d'EHPAD, mais aujourd'hui je suis là simplement pour tendre le micro à Arnaud Chevalier. En effet, pendant 3 ans et au cours de 108 épisodes hebdomadaires, Arnaud Chevalier a donné la parole aux autres. Il nous a ainsi permis de découvrir l'activité, le quotidien de psychologues, directeurs et directrices d'établissements, aides à domicile, consultants, consultantes, militants, militantes et tant d'autres. En janvier, je lui ai écrit « Un jour, il faudrait que ce soit vous l'invité de l'émission ». Arnaud m'a prise au mot. Alors aujourd'hui, juste retour des choses, c'est lui qui va avoir la parole pour raconter à son tour son parcours et ses belles expériences de professionnel passionné. Bonjour Arnaud.
Bonjour et merci de cette proposition, c'est surprenant.
Eh bien, donc habituellement, vous laissez vos invités se présenter. Mais tant qu'à changer, je vous ai proposé d'esquisser quelques lignes de votre portrait avant de vous laisser le soin de les préciser. Vous avez obtenu un master en management des établissements et services de santé en 2011 avec une spécialisation en ingénierie qualité. À la sortie de vos études, en tant que qualiticien à 23 ans, vous êtes tombé en EHPAD. Peut-être comme au Québec, on tombe en amour puisque depuis, vous semblez n'avoir jamais vraiment quitté ce monde des EHPAD. À 25 ans, vous étiez déjà directeur, vous l'êtes resté 8 ans dans 3 établissements privés, publics et associatifs. Et en parallèle, vous avez fait des vacations pour des interventions sur des projets d'établissement, des DURP, de la promotion de la bientraitance. Vous avez aussi commencé à enseigner. Aujourd'hui, vous êtes, écrivez-vous, indépendant, enseignant en CDD, consultant et formateur indépendant. Le podcast avec les acteurs du médico-social que vous avez commencé il y a 3 ans et votre activité sur le réseau professionnel LinkedIn paraissent refléter ce qui vous importe aujourd'hui, aider les autres à bien travailler et les aider à travailler bien ensemble. De tout cela, ressortirait de vous que vous seriez d'abord un homme d'attachement, fidèle au secteur médico-social que vous n'avez jamais quitté, fidèle aux soins des autres dans la vie jusqu'à sa fin. On pourrait dire encore que vous êtes un homme de passage pluriel, traversé avec appétit. Vous seriez aussi un homme de partage, ne gardant rien en main de ce que vous découvrez, le faisant passer plus loin. On pourrait dire enfin de vous que vous êtes un homme pressé, puisqu'à 37 ans, vous avez déjà eu plusieurs vies professionnelles. Si je vous avais vraiment reçu en entretien sociologique pour ma recherche sur les trajectoires professionnelles et personnelles des directeurs et directrices d'EHPAD, j'aurais passé du temps à réfléchir avec vous, en particulier au moment de transition de votre parcours, à ce qui s'y croise entre le travail et les événements personnels, entre le milieu d'où l'on vient et le statut hiérarchique dans lequel on entre, entre les réformes des EHPAD et les pratiques de travail en équipe, entre les questions existentielles qui traversent une vie d'homme et les soucis gestionnaires qui s'imposent à un directeur. Mais nous allons faire plus sobre. Arnaud, vous retrouvez-vous dans ce portrait? Qu'auriez-vous envie de lui ajouter?
Je me retrouve très très bien dans ce portrait, ouais, très complet. Et à ajouter, franchement, pas grand-chose. Même rien du tout. Non, c'est très complet et il y a pas mal de détails qui m'ont fait sourire parce que c'est exactement ça. Il y a la notion de passage, complètement liée à des questions plutôt personnelle en fait. Hein. Quand j'arrête d'être directeur d'EHPAD, c'est une question familiale d'arriver d'un troisième enfant et de me dire je vais plus pouvoir aller renclencher les déclencheurs manuels la nuit parce que déjà je dors pas, enfin je peux pas m'occuper, alors pas tout seul évidemment des enfants la nuit, mais en plus l'EHPAD ça va plus. Et par contre, j'ai pas envie de partir. Donc, comment je vais faire? Comment, voilà. Et c'est là où je me dis, je vais travailler un peu plus à mon rythme en étant plus directement rattaché à l'EHPAD et en ayant la possibilité d'y aller quand même encore. Et puis d'en voir encore plus finalement, hein, de voir encore plus d'établissements à travers la formation, à travers le conseil, à travers les projets d'établissement, qui est un sujet que je trouve super de pouvoir aller. Pendant un temps, réfléchir avec un établissement sur son contexte, sur ce qu'il veut faire, sur où il veut aller, de rencontrer des équipes, de se rendre compte qu'à chaque fois, c'est toujours la même histoire, mais avec quand même des différences et des particularités sur lesquelles il va falloir, sur lesquelles on va pouvoir travailler et en faire des opportunités.
D'accord.
Donc, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup ça, la notion d'opportunité, d'être pressé, c'est vrai. Alors, quand vous avez dit pressé... J'ai pas pu m'empêcher parce que voilà, quand on voit un CV comme ça, de se dire est-ce que c'est pressé ou instable?
Alors, c'est pressé ou instable?
Je sais pas. Les deux,
ne
sûrement.
Pas.
Non, si, un peu pressé. Non, mais pressé. Pressé avec le côté de. Après, je sais que c'est mon problème, hein, vouloir faire trop de choses.
Mm-hmm.
Et à un moment, de plutôt réfléchir à comment faire les bonnes choses et pas trop pour rester efficace. Et de toute façon, même en étant en poste, c'était déjà un problème. Enfin, je sais que plusieurs fois, on m'a dit « là, faut se calmer un peu parce qu'il n'y a plus personne qui arrive à suivre, ça devient chiant, faut se calmer
ouais. ».
Donc, je pense que là, c'est un peu un trait de personnalité sur lequel je travaille, mais voilà, vous l'avez vu, donc c'est pour ça que je dis, ça résume bien.
Alors, ce que je vous propose, on va reprendre, vous avez déjà donné pas mal de billes sur lesquelles on pourra revenir. Est-ce qu'on peut revenir au début? Qu'est-ce qui amène un jeune homme de 23 ans à choisir de travailler en EHPAD?
Ouais, alors ça, c'est ma question préférée aussi.
Ouais.
Pourquoi j'ai fait ça? Et ben, en fait, moi, à la base, je voulais être médecin. Je me voyais bien médecin généraliste, ce qui est un peu le même sujet que l'EHPAD. Hein. C'est en gros, le généraliste, il doit tout gérer. C'est vraiment l'accompagnement plutôt global et tout ça. Mon problème, c'est qu'en fac de médecine, je me retrouve un peu coincé au numerus clausus, où il me manque quelques places, et du coup, ça passe pas. Dans la foulée, je sentais qu'il y avait un risque, hein, vu mes classements. Et je suis arrivé sur une école donc à Lille qui s'appelle ILIS, qui est juste derrière la fac de médecine et qui proposait l'ingénierie de la santé, donc entre autres le management. Et c'est là où je me suis dit, je peux quand même avoir un impact auprès des gens, auprès des... alors plutôt des établissements, même si au départ, je ne me voyais pas en établissement. Mais avoir un impact quand même sur la notion santé. Et donc j'y suis allé et alors quand j'étais en médecine, parce que moi aussi du coup j'ai mon lien familial qui fait qu'à un moment je pense à l'EHPAD, moi c'était mon grand-père qui était en EHPAD à ce moment-là, donc aux alentours 2006-2007 au moment où moi j'étais en médecine et en fait j'ai passé pas mal de temps en EHPAD parce que donc il avait une maladie de Parkinson assez lourde, assez violente, donc vraiment sur le plan physique c'était compliqué mais pas du tout cognitivement, donc vraiment le sens de la maladie Parkinson qui emprisonne l'esprit dans un corps et du coup ça veut dire aussi troubles de déglutition et tout ça, et du coup il lui fallait beaucoup de temps pour manger et c'était un EHPAD qui était bien avec une équipe sympa et tout ça, mais déjà à l'époque je pense qu'on était au début des premières conventions tripartites, donc il devait être assez sous-staffé par rapport au public accueilli. Et en fait, on se rendait bien compte qu'ils n'avaient pas la possibilité de prendre suffisamment de temps pour aider à manger. Et du coup, on avait fait un relais en famille, en fait, où on faisait en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un à chaque repas, ce qui permettait à l'équipe de pas avoir à se dépêcher pour lui. Moi, mon tour, c'était le samedi midi, donc en revenant de la fac... Le vendredi soir, moi, c'était le samedi midi. Du coup, j'étais en EHPAD le midi, en général, pendant 2 heures, avec assis à table, et en fait, je sentais une dynamique sympa des équipes, des résidents, et du coup, moi, j'ai tout de suite vu l'EHPAD comme un endroit, en fait, plutôt cool, en fait, hein, où il y a de la vie, où il se passe des trucs, où il y a du monde et où on discute. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, et du coup, bah, je me suis orienté après, hein, donc quasiment 2 ans plus tard, bah, quand j'ai vu qu'en fait, j'avais la possibilité de passer d'aller travailler en EHPAD du côté management, je me suis dit, en fait, pourquoi pas, et j'ai fait mes stages, et voilà, à partir de mars 2010, j'étais en EHPAD.
D'accord. Donc, comme vous le disiez, là, un film personnel,
ouais.
Familial, le fait d'avoir vécu aussi et d'avoir, vous dites, un modèle plutôt positif, le sentiment de dynamique, dans dynamique, on pourrait se dire, j'ai entreaperçu pas mal de personnes en lien, donc effectivement, il y a quelque chose d'assez cohérent dans ce que vous dites. En tant que... Alors, devenir directeur tout de suite, en plus, hein, et à 23 ans, est-ce qu'on choisit de devenir directeur pour faire... Alors là, c'est difficile à dire en tant que directeur, parce qu'on n'a pas vraiment de modèle, parce que souvent, quand on devient chef, on se dit que peut-être qu'on se calque un peu dans un modèle. Alors, soit pour être comme quelqu'un qui nous a marqué, ou alors pour être surtout pas comme une personne qui nous a marqué aussi négativement. Est-ce que vous aviez déjà des représentations du directeur que vous souhaitiez être ?
Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même pas mal de... C'était... À la fois, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais le faire parce que j'avais fait quelques stages à l'hôpital et je me suis vraiment dit que mon truc, ce serait plutôt le médico-social, parce qu'à l'hôpital, je voyais à quel point, sur un poste de responsable qualité, il y avait peu d'impact, en fait, ou en tout cas à court terme. Ça, c'est le côté pressé, je pense. Et de se dire qu'en fait, si je dois aller convaincre tous les médecins pour qu'on change une ligne au protocole, ça va prendre un an et en gros, ça va me saouler. Alors que si je suis en EHPAD, il y a moins de monde, le directeur, finalement, il peut décider un peu plus. Après, ça ne veut pas dire qu'il doit tout décider tout seul, bien au contraire. Après ça, je pense que je l'ai compris un peu au fur et à mesure, pour aller moins vite. Mais non, sur quelle idée, quel modèle... Je pense que moi, ce qui m'a vraiment marqué à travers les stages, mais ça rejoint ce qu'on a pu se dire sur l'épisode précédent, et ce qui était vraiment important, c'est la notion du collectif et du travailler ensemble. De surtout pas être isolé, d'être proche des gens, et puis le côté peut-être qualiticien, démarche qualité, c'est le côté bah, on va réfléchir ensemble à comment on peut régler votre problème. Et en fait, c'est être plutôt à l'écoute des problématiques rencontrées, et du coup, de dire d'apporter des réponses, en fait. Et puis de les valider ensemble, et puis de plutôt apporter des solutions. Donc, ça a été plutôt ça, ma vision, assez rapidement.
Donc, tout de suite, c'est l'idée du collectif, et avec déjà des idées en tête de ce qui serait bon de mettre en place. Tout à l'heure, vous avez parlé de choses, de bonnes choses, de choses efficaces. Donc,
ouais.
Vous arrivez déjà avec, ou petit à petit, vous avez vu des choses qui seraient... bien de faire. Et après, comme vous dites, il fallait
carrément.
Sans doute que j'aille moins vite. Alors, tout de suite, ce qui vous est apparu évident, qu'est-ce qu'il fallait soit changer, soit mettre en place, soit conserver ?
Ouais. Bah, moi, je suis arrivé en 2010. Donc, 2010, c'est vraiment, on commence à mettre en place les logiciels de soins. Et moi, je m'y retrouve à fond parce que, côté un peu, peut-être pas geek, mais un peu geek quand même. J'aime bien les ordinateurs, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les trucs et tout ça. Et en fait, on arrive quand même à un moment où il n'y avait pas d'ordinateur dans les établissements et où il va falloir en fait former tout le monde. Et ça m'a plu. Je me souviens, 2011, mon premier job, en gros, c'est former les aides-soignantes à utiliser l'ordinateur pour faire leur transmission. Et du coup, c'est aussi comment on remet du lien derrière ça pour faire en sorte que ce soit utile au quotidien et donner du sens et puis surtout pas mettre en échec, pas mettre en difficulté parce qu'on se retrouve face à des personnes qui n'ont jamais tapé à l'ordinateur. Donc voilà, mon souvenir, c'est d'avoir expliqué, presque fait des cours, c'est un grand mot, mais d'avoir expliqué aux étudiants comment on met ses deux doigts sur la souris pour que ça aille mieux, quoi. Donc, en 2010, on part de là. Et puis, pareil, après, à chaque fois, c'était plutôt pendant les stages, passer du temps avec les secrétaires et leur faire des bons tableaux Excel avec des trucs où, en fait, ils gagnent du temps. Et c'est comment on débloque, comment on construit des petits outils à l'ordinateur. Combien de fois j'ai expliqué le publipostage et je l'ai mis en place. Enfin, truc tout con, mais derrière, la secrétaire, elle gagne une demi-journée, quoi. Voilà. Et c'était beaucoup ça, en fait, à travers, après... Donc l'informatique, du matériel, comment on... Et finalement, c'est là où j'arrive aujourd'hui, c'est vraiment mon fil conducteur. C'est comment on fait mieux, comment on fait plus, mais avec les moyens du bord, parce que c'est limité, quoi. Mmh. Donc en gros, il faut être malin, il faut trouver des petits trucs. Et puis D'accord. C'est comment on essaye d'emmener l'équipe là-dedans sans... voilà.
Alors, emmener l'équipe, comme vous dites, le collectif, vous dites toujours, c'est travailler avec. Alors, comment est-ce qu'on emmène une équipe? Et au contraire, qu'est-ce qui va être plutôt contre-productif d'après vos expériences?
Ben, contre-productif, c'est vouloir aller trop vite et ramener un truc en disant, voilà, regardez, on va faire ça. Ou là, du coup, déjà, ça crispe et ça bloque. Mais c'est plutôt, voilà, parler des problèmes et puis proposer des solutions et essayer d'y aller ensemble, quoi. Montrer que... tranquillement, je dirais même presque discrètement, qu'en fait, bah voilà, si on fonctionne un petit peu différemment, c'est tout con, hein, mais c'est un moment, on l'a tellement en EHPAD, ça va peut-être mieux maintenant, mais comment on utilisait le lève-malade? Ok, il faut aller le chercher, mais à la fin, c'est mieux, on va plus vite, c'est moins dangereux, vous faites moins mal, c'est plus confortable pour tout le monde. Et c'est juste ça, c'est déjà comment on utilise les moyens qu'on a à disposition, comment on utilise bien. En fait, alors, c'est un peu comme... téléphone, un truc qu'on va utiliser que 10% de ses capacités et tout ça. Dans l'EHPAD, à l'époque, c'était ça. Ça allait toujours un peu, sauf qu'au niveau fonctionnalité et, on va dire, technologie, tout ça, bon, on n'avait que dalle. Donc, voilà, c'est comment on accepte d'intégrer des choses nouvelles pour gagner en efficacité, quoi.
D'accord. Si on parle... Vous avez utilisé le mot efficacité plusieurs fois.
Ouais.
À quoi reconnaissez-vous que quelque chose, une pratique ou une manière de faire est efficace par rapport à une autre?
Ah, ça c'est compliqué. Bah déjà, est-ce qu'on le fait? Parce que quand c'est pas efficace, les gens ils lâchent en fait, ils vont lâcher l'affaire. Donc déjà, est-ce que les choses sont faites, sont utilisées? Souvent, quand c'est pas fait, c'est qu'il y a un problème aussi d'organisation, donc ou que c'est pas simple, ou que c'est pas intuitif, ou que juste c'est compliqué, donc les gens vont pas s'y mettre. Donc je pense que l'idée, c'est de revenir aux bases de c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va contourner ce problème, comment on va trouver une solution, quoi. Si, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une solution? Parfois, c'est ça aussi le sujet.
Donc dans ce que vous dites là, j'entends beaucoup l'idée de réfléchir avec. Vous aviez toutes les questions que vous venez de poser là maintenant. Est-ce que c'est par là, surtout, que cela passe?
Ouais, c'est certain. En fait, il ne faut pas amener une réponse toute faite parce que ça ne marchera pas et ce ne sera pas la bonne réponse. C'est vraiment la dimension participative de comment on réfléchit à notre problématique et comment on construit ensemble la solution. Parce qu'après, c'est les équipes qui vont l'utiliser. Si, limite, c'est un problème perso, bah, je me construis mon outil perso et ça va bien marcher parce que c'est ce que j'ai envie de faire et la manière dont j'ai envie de le faire. Avec l'équipe, il faut penser qu'ils ne verront peut-être pas les choses comme ça et il faut les amener eux aussi à réfléchir à comment ils veulent régler le problème. Il peut y avoir des questions juste parfois de valeur, d'habitude. Et puis souvent, c'est les peurs. Hein. Si on prend l'informatique, à une époque maintenant, c'est calmé aussi, mais les gens... C'était terrible pour eux d'aller sur l'ordinateur. Enfin, combien de fois on m'a dit « mais nous, on est dans l'humain, on est dans le truc ». Bah oui, bah raison de plus, on va utiliser l'ordinateur pour gagner du temps, pour passer plus de temps avec les personnes. Mmh. Mais voilà. Et ça, si on le dit comme ça, bah on vexe, donc c'est foutu. Donc il faut y aller progressivement et puis que les gens y trouvent leur intérêt aussi.
Et sur faire travailler en équipe, alors une équipe, c'est pas quelque chose d'homogène, ne serait-ce que ça va du médecin à l'ASH. Comment est-ce qu'on fait travailler toutes ces personnes ensemble? Quels sont les écueils? Comment est-ce qu'on dépasse les écueils? Ça, vous avez reçu pas mal d'invités dans votre podcast qui ont pu vous dire ça, mais du côté de votre pratique aussi?
Alors moi, dans ma pratique, je pense, je suis sûr, de ne pas avoir été bon là-dedans. Parce que, en voulant aller vite, je n'ai pas pris le temps, en fait. Et voilà. Aujourd'hui, avec le recul, à travers les podcasts, à travers des activités que je peux avoir, mais notamment à travers une association qui s'appelle Acavi, avec laquelle il y a déjà eu au moins 2 épisodes, je pense que le vrai sujet, c'est de mettre en place des espaces d'échange. Et concrètement, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait vraiment du temps pour se parler. C'est juste ça. Alors, une fois qu'on
c'est
l'a dit...
C'est une histoire de temps ou c'est pas que le temps?
Alors, En fait, c'est une histoire de prendre le temps. Le temps, de se donner du temps et tout ça. C'est ouvrir ces espaces d'échange. Alors après, il faut aussi les maîtriser, hein, parce que l'objectif, c'est pas non plus d'aller sur la réunionnite, mais c'est vraiment le comment on redonne du temps. Mais un temps qui va être encadré, parce que le problème, c'est que si on donne juste du temps et puis qu'il n'y a rien à faire et que c'est pas organisé, ben en gros, ok, c'est cool, on va peut-être pouvoir relâcher un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'on va régler les problématiques. Donc il va falloir quelqu'un qui soit là pour... En général, ça peut être le directeur, ça peut être une IDEC, un chef de service, ça peut être le médecin, ça peut être... Peu importe, ça peut même être l'équipe. Hein. Parfois, il y a l'équipe qui va s'emparer de certaines problématiques, mais c'est... Voilà. On prend le temps de discuter, de se poser et de trouver des solutions, de partager, de pouvoir aussi exprimer les états d'âme de chacun, de pourquoi certains sont pour, pourquoi sont contre, et puis après aller sur quelque chose de plus, aller chercher un compromis. Mais je pense que c'est ça la clé. Et c'est pas tout à fait naturel. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas pendant longtemps, on a eu l'habitude de se dire, bah, en fait, on a moins de temps, donc on va supprimer tous ces temps d'échange qui finalement sont pas très productifs, et voilà, pour être plus auprès des gens. Sauf que s'il n'y a pas de discussion entre les membres de l'équipe, bah, en fait, il n'y a pas d'équipe, quoi. Et on se retrouve avec des gens qui appliquent des tâches et qui font les choses chacun de leur côté. Un peu comme à domicile, où il y a cette problématique-là d'échange ensemble, alors qui est encore plus compliqué parce que chacun est à son rythme, chacun est aussi autonome. Le kiné, il fait son job, le médecin, il fait sa vie, l'auxiliaire, du coup, elle aussi. Et on voit d'ailleurs, si on reprend les podcasts, que sur tout ce qui est management libéré, équipe autonome, la clé, c'est d'avoir remis en place des temps d'échange dans lesquels les gens se parlent et trouvent ensemble les solutions pour dire voilà comment on va faire, tout le monde est OK. Et puis du coup, ils font, et puis ça marche mieux, quoi.
Avec des traces du travail également. Ouais. Ouais. Donc des espaces avec vraiment du temps et peut-être une organisation spécifique pour que tout le monde ait la parole, par exemple.
Bah, ça, c'est aussi indispensable. Ça, en y repensant après, je me dis, j'avais toujours tendance à le faire, mais oui, pas aller oublier les agents de service qui, déjà, est-ce qu'on les a invités à la réunion? Souvent, bah non. On se dit, bah non. Sauf que c'est eux qui passent le plus de temps avec le résident. Donc, et après, quand ils sont là, ils n'ont pas l'habitude de parler, ils ne se sentent pas à l'aise, donc ils ne parlent pas. Donc, il faut aller les chercher. Il faut, donc c'est vraiment une dynamique à mettre en place qui est pas évidente, mais qui, je pense, est rudement efficace. Et pas si cher que ça.
Oui.
Ok, c'est un peu de temps, mais c'est très très vite rentabilisé.
De la créativité. Ouais. J'ai assisté à un temps de formation de Montessori, de présentation de la méthode Montessori, alors en direction des personnes âgées à troubles cognitifs, mais également pour le travail des personnels.
Bah ouais.
Et donc il y a effectivement des choses, des dispositifs particuliers qu'on peut mettre en place. D'accord. On peut revenir peut-être sur comment choisissez-vous ce que vous disiez, vous étiez plutôt gourmand, tout vous intéresse, ouais. Vous avez envie de beaucoup de choses. Ben, comment est-ce que vous faites quand même pour sélectionner ce que vous voulez partager? Ça peut être dans les podcasts, ça peut être dans les formations, ce que vous partagez également sur LinkedIn. On pourrait se dire qu'à travers ça, on pourrait reconnaître ce qui compte le plus pour vous.
Oui, c'est vrai. C'est ce qui compte le plus. Après, je dirais que c'est... surtout maintenant, en fait, je cherche pas trop. Je prends ce qui passe et ce qui vient sans trop me poser de questions. Les podcasts, vous l'avez vu, c'est très peu préparé, en tout cas de mon côté, en me disant, OK, il y a un sujet qui m'intéresse, on y va, on fait, et puis c'est bien. Les formations, c'est vrai que c'est plusieurs choses qui sont passées. Alors, après, là, mon problème aussi, c'est vraiment la question du temps et de pouvoir bien faire les choses. Et pour ça, du coup, il ne faut pas trop, trop charger. Mais ouais, non, je prends ce qui m'intéresse, ce que j'aime bien. Et c'est vrai que ça tourne autour de l'innovation et cette dimension management, comment ensemble on arrive à trouver des solutions. Quoi.
Et sur l'enseignement, puisque vous vous assurez aussi alors, quel enseignant êtes-vous? Qu'est-ce que vous cherchez à faire passer, peut-être de vos expériences, notamment de directeur d'EHPAD?
Ouais. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'ils écoutent.
D'accord.
Mais ce qui m'a amené là, vraiment, c'est un des points que j'appréciais le plus quand j'étais en poste, c'était alors à la fois oui, trouver des petites solutions, trouver les combines qui vont faire que on va soulager le quotidien de tout le monde. Ça, c'était un vrai truc qui me plaisait. Et le deuxième sujet, c'était l'accompagnement des stagiaires. Avoir des stagiaires, voilà, peu importe en fait s'ils débutent, s'ils finissent, mais c'est accompagner les stagiaires à comprendre les choses et à lire entre les lignes. Moi, c'est ça le... Je pense que c'est ça le sujet. Ce que j'aime bien, c'est se dire qu'on peut avoir une perception, on peut avoir une vision des choses, mais souvent elle est un peu fausse. Et du coup, ce qui est important, c'est vraiment d'aller décrypter et de regarder un petit peu, on va dire, à l'intérieur de la machine pour essayer de comprendre les rouages. Et voilà, un exemple, c'est un salarié qui va avoir un discours, par exemple, qui se plaint de quelque chose. Bah, c'est essayer de comprendre pourquoi il se plaint vraiment. C'est quoi son vrai problème ? Que bah, s'il me dit que machin, qu'il y a ça qui va pas et tout ça, ou en fait, c'est de comprendre est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Qu'est-ce qui fait que là, il exprime un mal-être ? Parce qu'il peut pas tout dire, il peut pas me dire les choses telles qu'il les pense parce qu'il se dit qu'il peut pas. Et du coup, quel message il veut me faire passer ? Qu'est-ce qu'on comprend ? Avec les familles, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, on la connaît toujours, c'est la culpabilité. Ils nous disent qu'il y a ça qui va pas, il y a ça qui est pas propre, il y a ça qui va pas, mais en fait, ok, ça y a un problème, mais le fond du problème, c'est la culpabilité. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire en sorte que ça marche mieux au niveau de l'accompagnement. Pour les professionnels, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être juste ils se sentent plus bien dans leur travail, ou alors il y a des problèmes extérieurs, ou alors c'est un problème relationnel avec l'équipe, ou alors on n'a pas valorisé quelque chose, ou en tout cas il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait qui fait que là il y a un mal-être, et du coup c'est essayer de comprendre ça. Et alors avec les étudiants, du coup, c'est un peu compliqué de passer ce message-là parce que ça demande des éléments très précis et ça demande d'être sur le terrain, en fait, pour sentir les choses réelles. Mais ouais, l'idée, c'est de les ouvrir et de les préparer à ces questions-là, à toutes les questions qui sont compliquées, auxquelles on a peu de réponses, mais on en a discuté dans l'épisode précédent. C'est la fin et les moyens, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, quoi ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Et comment ça marche pour essayer de peser un petit peu sur pour influer sur les choses, mais positivement, quoi.
Dans ce qui ressort là de ce que vous dites, il y aurait deux choses à la fois savoir, enfin pour beaucoup de professionnels en tout cas, savoir écouter. Et c'est vrai que quand je suis devenue inspectrice, il y a un chef d'établissement qui m'a dit tu vas voir, on écoute beaucoup. Et j'ai vu effectivement, on écoute beaucoup. On a l'impression sans doute comme pour les directeurs et directrices, on est, comme on dit, dans l'opérationnel, comme c'est souvent dit, dans le chaudron, dans parfois la lessiveuse, tout le temps. Et pourtant, il y a deux choses, c'est à la fois réfléchir, on en a parlé beaucoup, et puis écouter pour chercher, comme vous le disiez, le problème derrière le problème. Il y a celui qui est annoncé, puis il y a l'autre, le vrai sur lequel on pourra faire quelque chose. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à savoir, bon, vous avez commencé à donner des pistes, ce qui fait que vous êtes passé d'une expérience à une autre, ou d'un EHPAD à un autre aussi, peut-être on peut en reparler. Est-ce qu'on passe, parce qu'il y a un poste nouveau qui s'ouvre, ou c'est parce que vous aviez envie de connaître un autre fonctionnement, parce qu'il y a des fonctionnements qui sont quand même assez différents entre le public, le privé à but lucratif, le privé associatif.
Ouais, c'est plutôt... Alors, j'en ai pas fait tant que ça, finalement, parce que... Mais le parcours, non, c'est plutôt plutôt par rapport à des choix de vie, en fait. On a parlé de l'attachement au tout début, et c'est vrai qu'à chaque fois, partir, c'était très dur. Et c'est très, très dur de partir. Il faut le dire à tout le monde, ça se prépare beaucoup. Et il faut pas se dire juste, allez, je vais m'en aller, puis ça va aller, c'est fini. Il faut vraiment bien, bien gérer, bien clôturer les dossiers, parce qu'après,
ça peut... Alors, comment est-ce qu'on clôture bien ? Comment est-ce qu'on gère bien son départ ?
Ben, il faut vraiment l'accepter et préparer la suite, en fait. Donner, mettre en place, faire en sorte que tout soit prêt pour qu'il puisse y avoir une transition. Parce que celui qui arrive après, forcément, il repart un peu à zéro. Donc, il faut qu'il ait des points spécifiques sur lesquels s'appuyer. Donc après, ça dépend. Est-ce qu'il y a bien eu une transition ? Parce que s'il n'y a pas de transition, c'est encore plus compliqué. Après, est-ce qu'on veut qu'il y ait une transition, une continuité, ou est-ce qu'on veut une rupture ? Ça dépend aussi des établissements. Mais moi, pour mon cas, c'était à chaque fois plutôt À un moment, j'étais loin de chez moi, donc j'avais quand même pour objectif de revenir. Et quand j'ai l'opportunité de revenir sur l'île, bah, ça fait partie de ma priorité, même si ça se passe super bien dans l'établissement et que c'est dur aussi de le quitter parce que ça se passe très bien. Et puis après, c'est plus long, mais je sens que j'arrive sur une fin de cycle, que beaucoup de choses ont pu être mises en place, que j'ai pu apporter beaucoup. Et je me dis maintenant, est-ce que je vais pouvoir apporter encore beaucoup ou juste voilà. Et puis le fait d'avoir à un moment voilà, le déclencheur troisième enfant, je me dis là, ça va être compliqué. Il faut que peut-être j'aille sur un métier où il n'y a plus de risque de m'appeler la nuit. Voilà, c'est ça qui a fait que.
D'accord. Peut-être une dernière
Ouais.
question. Je l'adresse à celui que j'ai appelé l'homme pressé, alors,
Ouais.
l'homme aux vies plurielles. Qu'est-ce qui vous fait courir si vite et qu'est-ce qui continue de vous faire courir? Ou peut-être marcher plus, enfin, vous faire marcher un peu plus lentement?
Bah ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a un problème, ou peut-être pas un problème, mais qu'il y a un truc psychologique derrière tout ça. Non, c'est. Là, la période Covid et tout ça, quand on est sur la formation, quand on lance des trucs et tout, c'est très compliqué. Après, je pense que c'est le côté où je me suis. Où en fait, ça m'amuse. Il y a beaucoup de. Il y a ça, il y a le côté défi, le côté challenge et le côté rencontre aussi. Et puis là, vraiment, je ne sais pas finalement d'où ça me vient, mais c'est le côté vraiment essayer d'améliorer le quotidien, essayer de fluidifier les rouages. Et de se dire, voilà, si on essaye telle ou telle modalité, si on essaye tel ou tel outil, nouvel outil. On devrait pouvoir faire un peu mieux, simplifier le quotidien des équipes qui font quand même un job super dur, mais malgré tout un travail extraordinaire. Et du coup, moi, ma vision, ça a toujours été ça, c'est de se dire comment je peux leur faciliter un petit peu la vie. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant.
D'accord.
Et puis passer du temps avec les résidents, ça m'amuse aussi beaucoup. Voilà, ça permet de faire une pierre plusieurs coups en fait, hein, et puis discuter avec les établissements de leurs problématiques, essayer de voir, enfin de comprendre l'origine d'un problème, trouver des solutions. Enfin voilà, moi ça m'amuse beaucoup.
Bon. Ben, je vous remercie beaucoup pour cet échange qui aura permis à ceux qui vous écoutez les autres, de mieux vous connaître.
Ouais.
Et cette fois-ci, je vous rends le micro.
Ah bah merci. Eh bah on va pouvoir clôturer. En tout cas, merci pour cette interview très préparée, très fluide, ce qui évite les questions avec des trous et des tics de langage. Donc bravo.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.